France Inter. Ce soir, troisième émission de notre série consacrée à Albert Camus et à l'étranger. Vous avez peut-être entendu avant-hier l'historien Benjamin Stora expliquer les raisons pour lesquelles Camus reste un écrivain lié à l'Algérie. Vous avez peut-être entendu hier Alberto Manguel expliquer pour quelles raisons il est tombé amoureux de l'œuvre de Camus dès l'âge de 15 ans quand il vivait en Argentine. Ce soir, le procès. Deux parties dans cette émission. Une première partie avec la voix d'Albert Camus qui, grâce à un enregistrement INA datant de 1954, va lire lui-même des fragments de l'étranger. Et en seconde partie, nous avons rendez-vous avec l'écrivain afghan Atik Rahimi qui nous expliquera pourquoi il continue à lire aujourd'hui Albert Camus. Meursault, contrairement aux apparences, ne veut pas simplifier la vie. Il dit qu'il vit. Il refuse de majorer ses sentiments et aussitôt, la société se sent menacée. C'est ainsi qu'Albert Camus, une quinzaine d'années après la publication de L'étranger, s'expliquait sur les raisons de l'indifférence de Meursault. Ce soir donc, troisième partie de notre traversée Camus, mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique, comme chaque soir, ce sera Mozart, Don Giovanni, dirigé par Georges Solti. Troisième émission consacrée à Albert Camus, et tout d'abord, et comme chaque soir, c'est Albert Camus qui lit L'étranger, émission numéro 3.
« Je peux dire qu'au fond, l'été a très vite remplacé l'été. Je savais qu'avec la montée des premières chaleurs, surviendrait quelque chose de nouveau pour moi. Mon affaire était inscrite à la dernière session de la cour d'assises, et cette session se terminerait avec le mois de juin. Les débats se sont ouverts, avec au dehors tout le plein du soleil. Mon avocat m'avait assuré qu'il ne durerait pas plus de 2 ou 3 jours. D'ailleurs, avait-il ajouté, la cour sera pressée, parce que votre affaire n'est pas la plus importante de la session. Il y a un parricide qui passera tout de suite après. À 7h30 du matin, on est venu me chercher, et la voiture cellulaire m'a conduite au palais de justice. Les deux gendarmes m'ont fait entrer dans une petite pièce qui sentait l'ombre. Nous avons attendu, assis près d'une porte derrière laquelle on entendait des voix, des appels, des bruits de chaises, et tout un remue-ménage qui m'a fait penser à ces fêtes de quartier où, après le concert, on range la salle pour pouvoir danser. Les gendarmes m'ont dit qu'il fallait attendre la cour, et l'un d'eux m'a offert une cigarette que j'ai refusée. Il m'a demandé peu après si j'avais le trac. J'ai répondu que non, et même, dans un sens, cela m'intéressait de voir un procès. Je n'en avais jamais eu l'occasion dans ma vie. Oui, a dit le second gendarme, mais cela finit par fatiguer. Après un peu de temps, une petite sonnerie a résonné dans la pièce. Ils m'ont alors ôté les menottes, ils ont ouvert la porte et m'ont fait entrer dans le box des accusés. La salle était pleine à craquer. Malgré les stores, le soleil s'infiltrait par endroits et l'air était déjà étouffant. On avait laissé les vitres closes. Je me suis assis et les gendarmes m'ont encadré. C'est à ce moment que j'ai aperçu une rangée de visages devant moi. Tous me regardaient, j'ai compris que c'étaient les jurés. Mais je ne peux pas dire ce qui les distinguait les uns des autres. Je n'ai eu qu'une impression. J'étais devant une banquette de tramway. Et tous ces voyageurs anonymes épiaient le nouvel arrivant pour en apercevoir les ridicules. Je sais bien que c'était une idée niaise, puisqu'ici, ce n'était pas le ridicule qu'ils cherchaient, mais le crime. Cependant, la différence n'est pas grande, et c'est en tout cas l'idée qui m'est venue. J'étais un peu étourdi aussi par tout ce monde dans cette salle close. J'ai regardé encore le prétoire et je n'ai distingué aucun visage. Je crois bien que d'abord, je ne m'étais pas rendu compte que tout ce monde se pressait pour me voir. D'habitude, les gens ne s'occupaient pas de ma personne. Il m'a fallu un effort pour comprendre que j'étais la cause de toute cette agitation. J'ai dit au gendarme « Que de monde !» Il m'a répondu que c'était à cause des journaux et il m'a montré un groupe qui se tenait près d'une table sous le banc des jurés. Il m'a dit « Les voilà !» J'ai demandé « Qui ?» Et il a répété « Les journaux !» Il connaissait l'un des journalistes qu'il a vu à ce moment et qui s'est dirigé vers nous. C'était un homme déjà âgé, sympathique, avec un visage un peu grimaçant. Il a serré la main du gendarme avec beaucoup de chaleur. J'ai remarqué à ce moment que tout le monde se rencontrait, s'interpellait et conversait, comme dans un club où l'on est heureux de se retrouver entre gens du même monde. Je me suis expliqué aussi la bizarre impression que j'avais d'être de trop, un peu comme un intrus. Pourtant, le journaliste s'est adressé à moi en souriant. Il m'a dit qu'il espérait que tout irait bien pour moi. Je l'ai remercié. Et il a ajouté, « Vous savez, nous avons monté un peu votre affaire. L'été, c'est la saison creuse pour les journaux. Il n'y avait que votre histoire et celle du parricide qui vaille quelque chose. » Il m'a montré ensuite, dans le groupe qu'il venait de quitter, un petit bonhomme qui ressemblait à une belette engraissée avec d'énormes lunettes cerclées de noir. Il m'a dit que c'était l'envoyé spécial d'un journal de Paris. Il n'est pas venu pour vous, d'ailleurs. Mais comme il est chargé de rendre compte du procès du parricide, on lui a demandé de câbler votre affaire en même temps. Là encore, j'ai failli le remercier, mais j'ai pensé que ce serait ridicule. Il m'a fait un petit signe cordial de la main et nous a quittés. Nous avons encore attendu quelques minutes. Mon avocat est arrivé en robe, entouré de beaucoup d'autres confrères. Il est allé vers les journalistes, a serré des mains. Ils ont plaisanté, ri et avaient l'air tout à fait à leur aise, jusqu'au moment où la sonnerie a retenti dans le prétoire. Tout le monde a regagné sa place. Mon avocat est venu vers moi, m'a serré la main et m'a conseillé de répondre brièvement aux questions qu'on me poserait, de ne pas prendre d'initiative et de me reposer sur lui pour tout le reste. À ma gauche, j'ai entendu le bruit d'une chaise qu'on reculait et j'ai vu un grand homme mince, vêtu de rouge, portant lorgnon, qui s'asseyait en pliant sa robe avec soin. C'était le procureur. Un huissier a annoncé la cour. Au même moment, deux gros ventilateurs ont commencé de vrombir. 3 juges, 2 en noir, le 3e en rouge, sont entrés avec des dossiers et ont marché très vite vers la tribune qui dominait la salle. L'homme en robe rouge s'est assis sur le fauteuil du milieu, a posé sa toque devant lui, essuyé son petit crâne chauve avec un mouchoir et déclaré que l'audience était ouverte. Les journalistes tenaient déjà leur stylo en main. Ils avaient tous le même air, indifférent et un peu narquois. Pourtant, l'un d'entre eux, beaucoup plus jeune, habillé en flanelle grise avec une cravate bleue, avait laissé son stylo devant lui et me regardait. Dans son visage un peu asymétrique, je ne voyais que ses deux yeux très clairs qui m'examinaient attentivement sans rien exprimer qui fût définissable. Et j'ai eu l'impression bizarre d'être regardé par moi-même. C'est peut-être pour cela, et aussi parce que je ne connaissais pas les usages du lieu, que je n'ai pas très bien compris tout ce qui s'est passé ensuite, le tirage au sort des jurés, les questions posées par le président à l'avocat, au procureur et au jury. À chaque fois, toutes les têtes des jurés se retournaient en même temps vers la cour. Une lecture rapide de l'acte d'accusation, où je reconnaissais des noms de lieux et de personnes, et de nouvelles questions à mon avocat. Mais le président a dit qu'il allait faire procéder à l'appel des témoins. L'huissier a lu des noms qui ont attiré mon attention. Du sein de ce public tout à l'heure informe, j'ai vu se lever un à un, pour disparaître ensuite par une porte latérale, le directeur et le concierge de l'asile, le vieux Thomas Pérez, Raymond, Masson, Salamano, Marie. Celle-ci m'a fait un petit signe anxieux. Je m'étonnais encore de ne pas les avoir aperçus plus tôt, lorsqu'à l'appel de son nom, le dernier, Céleste, s'est levé. J'ai reconnu à côté de lui la petite bonne femme du restaurant avec sa jaquette et son air précis et décidé. Elle me regardait avec intensité. Mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir parce que le président a pris la parole. Il a dit que le véritable débat allait commencer et qu'il croyait inutile de recommander au public d'être calme. Selon lui, il était là pour diriger avec impartialité les débats d'une affaire qu'il voulait considérer avec objectivité. La sentence rendue par le jury serait prise dans un esprit de justice et dans tous les cas, il ferait évacuer la salle au moindre incident. La chaleur montait et je voyais dans la salle les assistants s'éventer avec des journaux. Cela faisait un petit bruit continu de papier froissé. Le président a fait un signe et l'huissier a apporté trois éventails de paille tressée que les trois juges ont utilisé immédiatement. Mon interrogatoire a commencé aussitôt. Le président m'a questionné avec calme et même, m'a-t-il semblé, avec une nuance de cordialité. On m'a encore fait décliner mon identité et malgré mon agacement, j'ai pensé qu'au fond, c'était assez naturel parce qu'il serait trop grave de juger un homme pour un autre. Puis le président a recommencé le récit de ce que j'avais fait en s'adressant à moi toutes les trois phases pour me demander « Est-ce bien cela ?» À chaque fois, j'ai répondu « Oui, monsieur le président, selon les instructions de mon avocat. » Cela a été long, parce que le président apportait beaucoup de minutie dans son récit. Pendant tout ce temps, les journalistes écrivaient. Je sentais les regards du plus jeune d'entre eux et de la petite automate. La banquette de tramway était tout entière tournée vers le président. Celui-ci a toussé, feuilleté son dossier, et il s'est tourné vers moi en s'éventant. Il m'a dit qu'il devait aborder maintenant des questions apparemment étrangères à mon affaire, mais qui peut-être la touchaient de fort près. J'ai compris qu'il allait encore parler de maman, et j'ai senti en même temps combien cela m'ennuyait. Il m'a demandé pourquoi j'avais mis maman à l'asile. J'ai répondu que c'était parce que je manquais d'argent pour la faire garder et soigner. Il m'a demandé si cela m'avait coûté personnellement. J'ai répondu que ni maman ni moi n'attendions plus rien l'un de l'autre, ni d'ailleurs de personne, et que nous nous étions habitués tous les deux à nos vies nouvelles. Le président a dit alors qu'il ne voulait pas insister sur ce point, et il a demandé au procureur s'il ne voyait pas d'autres questions à me poser. Celui-ci me tournait à demi le dos et sans me regarder, il a déclaré qu'avec l'autorisation du président, il aimerait savoir si j'étais retourné vers la source tout seul, avec l'intention de tuer l'arabe. « Non, ai-je dit. Alors, pourquoi était-il armé? Et pourquoi revenir vers cet endroit, précisément ?» J'ai dit que c'était le hasard. Et le procureur a noté avec un accent mauvais, « Ce sera tout pour le moment. » Tout ensuite a été un peu confus, du moins pour moi. Mais après quelques conciliabules, le président a déclaré que l'audience était levée et renvoyé à l'après-midi pour l'audition des témoins. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. On m'a emmené, fait monter dans la voiture cellulaire et conduit à la prison où j'ai mangé. Au bout de très peu de temps, juste assez pour me rendre compte que j'étais fatigué, on est revenu me chercher. Tout a recommencé et je me suis trouvé dans la même salle devant les mêmes visages. Seulement, la chaleur était beaucoup plus forte et comme par un miracle, chacun des jurés, le procureur, mon avocat et quelques journalistes étaient munis aussi d'éventails de paille. Le jeune journaliste et la petite femme étaient toujours là, mais ils ne s'éventaient pas et me regardaient encore sans rien dire. J'ai essuyé la sueur qui couvrait mon visage et je n'ai repris un peu conscience du lieu et de moi-même que lorsque j'ai entendu appeler le directeur de l'asile. On lui a demandé si maman se plaignait de moi. Il a dit que oui, mais que c'était un peu la manie de ces pensionnaires de se plaindre de leurs proches. Le président lui a fait préciser si elle me reprochait de l'avoir mise à l'asile et le directeur a dit encore oui, mais cette fois, il n'a rien ajouté. À une autre question, il a répondu qu'il avait été surpris de mon calme le jour de l'enterrement. On lui a demandé ce qu'il entendait par « calme ». Le directeur a regardé alors le bout de ses souliers et il a dit que je n'avais pas voulu voir maman, que je n'avais pas pleuré une seule fois et que j'étais parti aussitôt après l'enterrement sans me recueillir sur sa tombe. Une chose encore l'avait surpris, un employé des pompes funèbres lui avait dit que je ne savais pas l'âge de maman. Il y a eu un moment de silence et le président lui a demandé si c'était bien de moi qu'il avait parlé. Comme le directeur ne comprenait pas la question, il lui a dit « c'est la loi ». Puis le président a demandé à l'avocat général s'il n'avait pas de questions à poser au témoin. Et le procureur s'est écrié « oh non, cela suffit !» avec un tel éclat et un tel regard triomphant dans ma direction que pour la première fois depuis bien des années, j'ai eu une envie stupide de pleurer parce que j'ai senti combien j'étais détesté par tous ces gens-là. Après avoir demandé au jury et à mon avocat s'ils avaient des questions à poser, le président a entendu le concierge. Pour lui, comme pour tous les autres, le même cérémonial s'est répété. En arrivant, le concierge m'a regardé, il a détourné les yeux. Il a répondu aux questions qu'on lui posait. Il a dit que je n'avais pas voulu voir maman, que j'avais fumé, que j'avais dormi et que j'avais pris du café au lait. J'ai senti alors quelque chose qui soulevait toute la salle et pour la première fois, j'ai compris que j'étais coupable. On a fait répéter au concierge l'histoire du café au lait et celle de la cigarette. L'avocat général m'a regardé avec une lueur ironique dans les yeux. À ce moment, mon avocat a demandé au concierge s'il n'avait pas fumé avec moi. Mais le procureur s'est élevé avec violence contre cette question. Quel est le criminel ici et quelles sont ses méthodes qui consistent à salir les témoins de l'accusation pour minimiser des témoignages qui n'en demeurent pas moins écrasants? Malgré tout, le président a demandé au concierge de répondre à la question. Le vieux a dit d'un air embarrassé « Je sais bien que j'ai eu tort, mais je n'ai pas osé refuser la cigarette que monsieur m'a offerte. » En dernier lieu, on m'a demandé si je n'avais rien à ajouter. « Rien, ai-je répondu. Seulement que le témoin a raison. Il est vrai que je lui ai offert une cigarette. » Le concierge m'a regardé alors avec un peu d'étonnement et une sorte de gratitude. Il a hésité. Puis il a dit que c'était lui qui m'avait offert le café au lait. Mon avocat a triomphé bruyamment et a déclaré que les jurés apprécieraient. Mais le procureur a tonné au-dessus de nos têtes et il a dit « Oui, messieurs les jurés apprécieront. Et ils concluront qu'un étranger pouvait proposer du café, mais qu'un fils devait le refuser devant le corps de celle qui lui avait donné le jour. » Le concierge a regagné son banc. Quand est venu le tour de Thomas Pérez, un huissier a dû le soutenir jusqu'à la barre. Pérez a dit qu'il avait surtout connu ma mère et qu'il ne m'avait vu qu'une fois, le jour de l'enterrement. On lui a demandé ce que j'avais fait ce jour-là et il a répondu « Vous comprenez, moi-même j'avais trop de peine, alors je n'ai rien vu, c'était la peine qui m'empêchait de voir parce que c'était pour moi une très grosse peine et même je me suis évanoui, alors je n'ai pas pu voir monsieur. » L'avocat général lui a demandé si du moins il m'avait vu pleurer. Pérez a répondu que non. Le procureur a dit alors à son tour « Messieurs les jurés apprécieront, mais mon avocat s'est fâché. Il a demandé à Pérez, sur un ton qui m'a semblé exagéré, s'il avait vu que je ne pleurais pas. » Pérez a dit non. Le public a ri, et mon avocat, en retroussant une de ses manches, a dit d'un ton péremptoire « Voilà l'image de ce procès, tout est vrai et rien n'est vrai. » Le procureur avait le visage fermé et piquait un crayon dans les titres de ses dossiers. Après 5 minutes de suspension, pendant lesquelles mon avocat m'a dit que tout allait pour le mieux, on a entendu Céleste qui était citée par la défense. La défense, c'était moi. Céleste jetait de temps en temps des regards de mon côté et roulait un panama entre ses mains. Il portait le costume neuf qu'il mettait pour venir avec moi certains dimanches aux courses de chevaux. Mais je crois qu'il n'avait pas pu mettre son col parce qu'il portait seulement un bouton de cuivre pour tenir sa chemise fermée. On lui a demandé si j'étais son client et il a dit oui, mais c'était aussi un ami. Ce qu'il pensait de moi, et il a répondu que j'étais un homme. Ce qu'il entendait par là, et il a déclaré que tout le monde savait ce que cela voulait dire. S'il avait remarqué que j'étais renfermé, et il a reconnu seulement que je ne parlais pas pour ne rien dire. L'avocat général lui a demandé si je payais régulièrement ma pension. Céleste a ri, et il a déclaré que c'était des détails entre nous. On lui a demandé encore ce qu'il pensait de mon crime. Il a mis alors ses mains sur la barre, et l'on voyait qu'il avait préparé quelque chose. Il a dit, pour moi, c'est un malheur. Un malheur, tout le monde sait ce que c'est. Ça vous laisse sans défense. Eh bien, pour moi, c'est un malheur. Il allait continuer, mais le président lui a dit que c'était bien et qu'on le remerciait. Alors Céleste est restée un peu interdit. Mais il a déclaré qu'il voulait encore parler. On lui a demandé d'être bref. Il a encore répété que c'était un malheur. Et le président lui a dit, oui, c'est entendu. Mais nous sommes là pour juger les malheurs de ce genre. Nous vous remercions. Comme s'il était arrivé au bout de sa science et de sa bonne volonté, Céleste s'est alors retournée vers moi. Il m'a semblé que ses yeux brillaient, que ses lèvres tremblaient. Il avait l'air de me demander ce qu'il pouvait encore faire. Moi, je n'ai rien dit, je n'ai fait aucun geste, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai eu envie d'embrasser un homme. Le président lui a encore enjoint de quitter la barre, Céleste est allée s'asseoir dans le prétoire. Pendant tout le reste de l'audience, il est resté là, un peu penché en avant, les coudes sur les genoux, le panama entre les mains, à écouter tout ce qui se disait. Marie est entrée. Elle avait mis un chapeau, elle était encore belle. Mais je l'aimais mieux avec ses cheveux libres. De l'endroit où j'étais, je devinais le poids léger de ses seins et je reconnaissais sa lèvre inférieure toujours un peu gonflée. Elle semblait très nerveuse. Tout de suite, on lui a demandé depuis quand elle me connaissait. Elle a indiqué l'époque où elle travaillait chez nous. Le président a voulu savoir quels étaient ses rapports avec moi. Elle a dit qu'elle était mon amie. À une autre question, elle a répondu qu'il était vrai qu'elle devait m'épouser. Le procureur, qui feuilletait un dossier, lui a demandé brusquement de quand datait notre liaison. Elle a indiqué la date. Le procureur a remarqué d'un air indifférent qu'il lui semblait que c'était le lendemain de la mort de maman. Puis il a dit avec quelque ironie qu'il ne voudrait pas insister sur une situation délicate, qu'il comprenait très bien les scrupules de Marie, mais, et ici son accent s'est fait plus dur, que son devoir lui commandait de s'élever au-dessus des convenances. Il a donc demandé à Marie de résumer cette journée où je l'avais connue. Marie ne voulait pas parler, mais devant l'insistance du procureur, elle a dit notre bain, notre sortie au cinéma et notre rentrée chez moi. L'avocat général a dit qu'à la suite des déclarations de Marie à l'instruction, il avait consulté les programmes de cette date. Il a ajouté que Marie elle-même dirait quel film on passait à l'heure. D'une voix presque blanche, en effet, elle a indiqué que c'était un film de Fernandel. Le silence était complet dans la salle quand elle a eu fini. Le procureur s'est alors levé, très grave, et d'une voix que j'ai trouvée vraiment émue, le doigt tendu vers moi, il a articulé lentement. Messieurs les jurés, le lendemain de la mort de sa mère, cet homme prenait des bains, commençait une liaison irrégulière et allait rire devant un film comique. Je n'ai rien de plus à vous dire. Il s'est assis, toujours dans le silence. Mais tout d'un coup, Marie a éclaté en sanglots, a dit que ce n'était pas cela, qu'il y avait autre chose, qu'on l'a forcée à dire le contraire de ce qu'elle pensait, qu'elle me connaissait bien et que je n'avais rien fait de mal. Mais l'huissier, sur un signe du président, l'a emmenée. Et l'audience s'est poursuivie. C'est à peine si ensuite on a écouté Masson qui a déclaré que j'étais un honnête homme et qu'il dirait plus, j'étais un brave homme. C'est à peine encore si on a écouté Salamano quand il a rappelé que j'avais été bon pour son chien et quand il a répondu à une question sur ma mère et sur moi en disant que je n'avais plus rien à dire à maman et que je l'avais mise pour cette raison à l'asile. Il faut comprendre, disait Salamano, il faut comprendre. Mais personne ne paraissait comprendre. On l'a emmené. Puis est venu le tour de Raymond, qui était le dernier témoin. Raymond m'a fait un petit signe et a dit tout de suite que j'étais innocent. Mais le président a déclaré qu'on ne lui demandait pas des appréciations, mais des faits. Il l'a invité à attendre des questions pour répondre. On lui a fait préciser ses relations avec la victime. Raymond en a profité pour dire que c'était lui que cette dernière haïssait depuis qu'il avait giflé sa sœur. Le président lui a demandé cependant si la victime n'avait pas de raison de me haïr. Raymond a dit que ma présence à la plage était le résultat d'un hasard. Le procureur lui a demandé alors comment il se faisait que la lettre qui était à l'origine du drame avait été écrite par moi. Raymond a répondu que c'était un hasard. Le procureur a rétorqué que le hasard avait déjà beaucoup de méfaits sur la conscience dans cette histoire. Il a voulu savoir si c'était par hasard que je n'étais pas intervenu quand Raymond avait giflé sa maîtresse. Par hasard que j'avais servi de témoin au commissariat. Par hasard encore que mes déclarations lors de ce témoignage s'étaient révélées de pure complaisance. Pour finir, il a demandé à Raymond quels étaient ses moyens d'existence et comme ce dernier répondait magasinier, l'avocat général a déclaré au juré que de notoriété générale, le témoin exerçait le métier de souteneur. J'étais son complice et son ami. Il s'agissait d'un drame crapuleux de la plus basse espèce, aggravé du fait qu'on avait affaire à un monstre moral. Raymond a voulu se défendre et mon avocat a protesté, mais on leur a dit qu'il fallait laisser terminer le procureur. Celui-ci a dit « J'ai peu de choses à ajouter. Était-il votre ami » a-t-il demandé à Raymond. « Oui, a dit celui-ci, c'était mon copain. » L'avocat général m'a posé alors la même question et j'ai regardé Raymond qui n'a pas détourné les yeux. J'ai répondu « Oui ». Le procureur s'est alors retourné vers le jury et a déclaré « Le même homme qui, au lendemain de la mort de sa mère, se livrait à la débauche la plus honteuse, a tué pour des raisons futiles et pour liquider une affaire de mœurs inqualifiable. » Il s'est assis alors. Mais mon avocat, à bout de patience, s'est écrié en levant les bras, de sorte que ses manches, en retombant, ont découvert les plis d'une chemise à bidonner. « Enfin, est-il accusé d'avoir enterré sa mère ou d'avoir tué un homme ?» Le public a ri. Mais le procureur s'est redressé encore, s'est drapé dans sa robe et a déclaré qu'il fallait avoir l'ingénuité de l'honorable défenseur pour ne pas sentir qu'il y avait entre ces deux ordres de faits une relation profonde, pathétique, essentielle. « Oui, s'est-il écrié avec force, j'accuse cet homme d'avoir enterré une mère avec un cœur de criminel. » Cette déclaration a paru faire un effet considérable sur le public. Mon avocat a haussé les épaules et essuyé la sueur qui couvrait son front, mais lui-même paraissait ébranlé, et j'ai compris que les choses n'allaient pas bien pour moi. L'audience a été levée. En sortant du palais de justice pour monter dans la voiture, j'ai reconnu un court instant l'odeur et la couleur du soir d'été. Dans l'obscurité de ma prison roulante, j'ai retrouvé un à un, comme du fond de ma fatigue, tous les bruits familiers d'une ville que j'aimais, et d'une certaine heure où il m'arrivait de me sentir content. Le cri des vendeurs de journaux dans l'air déjà détendu, les derniers oiseaux dans le square, l'appel des marchands de sandwich, la plainte des tramways dans les hauts tournants de la ville et cette rumeur du ciel avant que la nuit bascule sur le port. Tout cela recomposait pour moi un itinéraire d'aveugle que je connaissais bien avant d'entrer en prison. Oui, c'était l'heure où il y avait bien longtemps je me sentais content. Ce qui m'attendait alors, c'était toujours un sommeil léger sans rêve. Et pourtant, quelque chose était changé puisqu'avec l'attente du lendemain, c'est ma cellule que j'ai retrouvée. Comme si les chemins familiers tracés dans les ciels d'été pouvaient mener aussi bien aux prisons qu'aux sommeils innocents.
I'm رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي انا رحت وما نوليش ما نوليش ما نوليش عت الناس عت الناس عت الناس في الغربة
Merci à Tik Raimi d'avoir accepté de participer à notre série sur Albert Camus. Nous venons d'entendre par Albert Camus lui-même la troisième partie de notre émission, donc le texte de l'étranger, cette séquence qui se passe au moment où il comprend, d'ailleurs, comprend-il ou ne comprend-il pas qu'il est emprisonné, qu'il va être jugé et qu'il va sans doute encourir la peine de mort. On peut se poser la question, mais avant de revenir sur les thématiques de cette troisième partie de notre série, j'aimerais savoir, Atik Raimi, quand vous avez lu Albert Camus pour la première fois ?
Alors, la première fois, j'ai lu en persan. J'étais en troisième. C'était vraiment au moment où il y a eu l'invasion soviétique en Afghanistan aussi. Le prof m'avait demandé de faire exposer sur Albert Camus. C'était à ce moment-là, en effet, que j'ai découvert les autres œuvres de Camus, entre autres la peste, qu'à l'époque, pour nous, les Afghans, représentait bien, figurait bien l'invasion soviétique comme une peste.
Pour vous, Atik Raimi, quand vous avez lu L'étranger pour la première fois, vous avez compris quoi ?
C'était quand même un moment très particulier dans ma vie, ce moment-là. Donc, parce que mon frère qui était devenu communiste à ce moment-là, et mon père qui était en prison, était libéré et parti vivre en Inde. Et moi, je devais partir à ce moment-là. Donc, j'étais déçu aussi du marxisme à cette époque, même si j'étais très jeune, et de toutes les pensées de gauche, etc. Je mettais Albert Camus au-delà de tous ces conflits idéologiques et politiques. Je les mettais justement au-dessus comme un sage indien. Et ce qui était extraordinaire aussi, quand je suis parti en Inde et je me suis approché de la philosophie indienne, etc. Je voyais là-bas dans la philosophie indienne quelque chose de pensée camusienne. Et puis plus tard, quand j'ai lu ses carnets et que je voyais combien de fois il citait une devise de la pensée indienne, alors là, j'étais assez surpris. Et je citais toujours cette phrase magnifique « Ce que pense l'homme, il le devient ». Ça, c'est dans les Panchachatra, d'un livre indien. En réfléchissant à ça, en effet, je voyais qu'il y avait quand même la pensée bouddhiste très présente dans les œuvres d'Albert Camus. Et plus précisément dans L'étranger. Morceau, pour moi, c'était justement cette distance avec le monde et ce qu'il voyait à travers, justement, ses actions, ses pensées. C'était, pour moi, un personnage très bouddhiste.
Alors, le personnage de Meursault, comment l'avez-vous interprété ? Et a-t-il évolué au fur et à mesure de vos différentes lectures, Atik Raimi ? Parce que vous parlez d'un Camus indien, philosophe indien. C'est vrai que dans l'œuvre de L'étranger, il y a une sorte de traité du non-vouloir.
Oui.
De l'indifférence portée au maximum de ses possibilités. Qu'est-ce qu'il veut, Meursault ? Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il peut ? Il ne veut rien. Il ne veut rien sentir. Donc, est-ce que ce traité du non-vouloir est-il pour vous l'accomplissement d'un idéal de la liberté ou plutôt une démission de toutes les facultés humaines? Comment vous le comprenez, ce Meursault?
Je voyais ce thème très cher au bouddhisme, qui est le détachement. Je ne dirais pas que Meursault était indifférent par rapport au monde, mais il avait un certain détachement par rapport à ce qu'il vivait, par rapport à son monde, par rapport à son, même à son existence. C'est ça qui m'impressionnait chez lui. Ce qu'on voyait, justement, dans la pensée, c'est-à-dire voir, ne pas dire que je suis dans ce monde, pour cela, je dois être engagé. Non, il dit, je ne suis pas dans ce monde, je suis de ce monde. Donc, je fais partie de ce qui existe, que ça soit une pierre, que ça soit un arbre, peu importe. Et j'ai aussi ce détachement, mais aussi cette présence dans ce monde, mais en tant qu'un élément de ce monde. Pas jeté, comme dans la pensée monothéiste, jeté sur cette terre par une faute, par un péché. Non, on est là au même titre qu'un arbre, qu'une pierre. Voilà.
Oui, mais c'est un homme, Meursault, quand même. C'est pas ni un arbre, ni une pierre.
Oui, bien sûr. C'est comme n'importe quel autre animal. Sauf qu'il disait que j'appartiens de ce monde.
Oui, alors, j'appartiens à ce monde, à Tik Raimi. Mmh. J'appartiens à ce monde, à la sensualité de la beauté du monde. Mmh. Il décrit admirablement et il ressent très profondément, oui, ce Meursault, la beauté de la lumière, le soleil sur la plage, le corps qui vibre à cette chaleur, etc. Mais en ce qui concerne les gestes qu'il commet, et notamment ce crime, ou même au tout début du texte, comme on a pu l'entendre avant-hier, il ne ressent aucune émotion. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Et de la même manière, quand il va tuer celui qu'il appelle l'arabe, eh ben, il a aucune émotion. Donc, comment vous comprenez cette double appartenance au monde?
Bon, écoutez, moi, je viens quand même d'une culture dans laquelle tout devient de métaphores et symboles. Donc, moi, je n'analyse pas le morceau d'Albert Camus comme une figure très réaliste d'un homme existentialiste et qui est arrivé à l'absurdité absolue. Moi, je vois quand même cette présence, ce personnage, comme une sorte de métaphore de l'être humain qui fait partie de ce monde, qui voit, qui sent, qui ressent, etc. Évidemment. Mais il est en même temps dans une sorte de détachement par rapport à ça, par rapport à ce monde. Il est arrivé même à une sorte de, déjà vivant, à une sorte de nirvana. Vous voyez, pour moi, c'était ça. C'est-à-dire, voilà, dans une sorte de détachement absolu.
Il y a les autres et il y a moi, Meursault. D'ailleurs, bien il dit sûr. Je tout au long, hein, Albert Camus. Bon, c'est pas un hasard. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis en tant qu'écrivain sur cette prépondérance du jeu dans l'organisation et la trame même du récit. Mais il y a les autres et moi, ou plutôt, il y a moi et les autres. Et dans cette troisième partie de cette série consacrée à l'étranger, avec la lecture qu'on a eue tout à l'heure d'Albert Camus lui-même, le Meursault en question, il a l'air de ne pas savoir ou de ne pas vouloir savoir s'il est vraiment en prison. Il est indifférent à la prison. Finalement, le temps passe assez vite, c'est pas si terrible que ça. Comme s'il n'était pas là dans le monde. Alors, il est où, selon vous, Meursault?
Exact. Le Meursault, pour moi, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce personnage qui est arrivé à cette mort absolue qu'est le Nirvana. Voilà. Il est arrivé à ça. C'est un élément de cette nature et de ce monde et de cette civilisation, même de cette culture. Et à chaque fois quand il parle de moi, je et les autres, n'oublions pas que ces deux mots-là ont un rapport avec la pensée très profonde de Camus qu'il avait déjà développée dans L'homme révolté et même dans L'exil et le royaume, dans sa nouvelle extraordinaire que j'ai lue et relue pendant le confinement, qui est Jonas ou l'artiste au travail. Oui, dans ça, cette nouvelle, ça se termine avec cette écriture au milieu d'un tableau tout blanc, qu'on ne sait pas distinguer si c'est solitaire ou solidaire. Je crois que ce retrouvaille dans la langue française est très important justement pour Camus. C'est-à-dire qu'on est à la fois solitaire, comme Marceau, bien sûr, mais le fait d'être dans ce monde ou être de ce monde, on est solidaire avec tout ce qui se passe dans ce monde.
Vous identifiez à Meursault, vous, Atik Raïmi?
Oui, mais...
C'est une figure de la liberté pour vous?
Oui, sauf sans commettre le meurtre.
Ouais, mais il l'a commis, le meurtre.
Oui, mais ce meurtre, pour moi, c'est plutôt un acte suicidaire. Il tue, non pas juste pour tuer, mais pour se tuer. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que, justement, après cet assassinat, commence deuxième partie de l'étranger. Et durant cette deuxième partie de l'étranger, Meursault est un être comme, on vient de dire, comme quelqu'un qui est mort, et il est là comme une sorte d'âme, comme un esprit, en train de regarder tout, sans pouvoir intervenir, changer quoi que ce soit. Ni son procès, ni son attitude, rien. Oui, il est comme une sorte de fantôme, détaché de son monde à ce moment-là.
Alors effectivement, c'est ce que nous venons d'entendre dans la voix d'Albert Camus tout à l'heure, dans la première partie. Mmh. C'est cette espèce d'indifférence à son propre sort que décrit admirablement Camus en le plaçant, se plaçant à l'intérieur de la pensée. De la pensée de Meursault, et évidemment, et on sait d'ailleurs, hein, par des textes de Camus lui-même, à quel point il était un lecteur très amoureux et très admiratif de Franz Kafka. On ne peut pas ne pas penser à Franz Kafka dans cette partie sur le procès. À l'absurdité de la justice, à l'extériorité de la justice par rapport à lui, l'homme, qui est broyé par cette justice.
Sauf que, justement, chez Kafka, Joseph K. il se bat jusqu'à la fin, pour connaître, justement, pourquoi il est condamné, d'une certaine manière. Alors que chez Camus, pas du tout. L'homme, il ne justifie rien. Il n'essaye de justifier pas du tout même son crime. Le seul truc, c'est qu'il dit que voilà, il y avait trop de soleil. Le soleil, et c'est encore une fois, pour moi, c'est justement la vérité. C'est le symbole de la vérité dans notre partout. Et c'est cette vérité qui l'a rendu justement aveugle. Et cette vérité, c'est quoi? C'est l'absurdité. La vérité humaine, c'est son absurdité.
Et vous trouvez qu'à travers le personnage de Meursault, Atik Raïmi, il y a une sorte de conscience individuelle qui peut rejoindre la communauté des hommes, parce que moi je le perçois sans doute à tort comme un homme complètement coupé de toute idée de communauté. Il s'est abstrait de la communauté des hommes. C'est la mort qui va lui rendre la communauté humaine d'une certaine façon, non?
Quand il devient, selon la pensée indienne, non-être, pour moi c'est justement, c'est pas mort ou mais non-être. Voilà. Marceau représente ce personnage-là, ce concept-là. Il est à la fois, il est là, mais en même temps, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas dans la société, mais il fait partie de la société, même du système judiciaire, juridique. Il fait partie de tout ça. Mais avec ce décalage et avec cette distance et avec ce détachement.
Évidemment, on pense au texte de Camus, Le mythe de Sisyphe, hein, qui est très éclairant pour comprendre l'étranger d'Albert Camus. Mais je voudrais qu'on revienne au style d'Albert Camus. Vous qui êtes écrivain à Tikraïmi et qui soignez beaucoup votre langue, vous écrivez en français et aussi en afghan, mais vous avez un style très pur, très en apparence, très simple. Et je voudrais vous lire une toute petite critique d'un grand critique littéraire dont vous avez peut-être entendu parler, qui hélas a disparu il y a une bonne vingtaine d'années, qui était connu pour sa verdeur et son esprit caustique, qui s'appelait Bernard Franck, mais il écrivait très bien. Voici ce qu'il écrivait au moment de l'obtention du prix Nobel d'Albert Camus, qui a fait beaucoup pâlir de jalousie le monde littéraire français. Il écrivait ceci à propos d'Albert Camus. On l'a pris pour un penseur et il n'a que peu d'idées. On s'est extasié sur son style et le plus souvent, il écrit mal. En fait, c'est un timide, un homme du peuple qui porte son chapeau et oublie de l'enlever quand il rentre dans un salon bourgeois pour la première fois. Alors, c'est très méchant, mais je voulais savoir aujourd'hui comment vous qualifieriez le style d'Albert Camus.
Encore une fois, dans ma culture, dans notre littérature, évidemment, c'est une littérature très lyrique, très poétique. Et d'un seul coup, lire un roman avec une écriture qu'on a qualifiée d'écriture blanche, Barthes qui disait au degré zéro de l'écriture, voilà, ça m'avait beaucoup impressionné. Il y avait très peu d'adjectifs, pas un lyrisme que je connaissais. C'était très moderne aussi pour moi, du coup. Et c'est ça, en effet, ça m'avait influencé. C'est des phrases courtes, limpides, transparentes, qui, avec peu de mots, on comprend beaucoup de choses. Et ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup frappé. Et je crois que ça m'avait beaucoup aussi influencé, en effet.
Merci beaucoup pour ce très bel éloge d'Albert Camus. Vive Albert Camus, et on se retrouvera demain pour la 4e et dernière émission de cette série consacrée à l'étranger. Première partie, Albert Camus lit lui-même la fin de son texte. Et en dernière séquence, nous aurons le philosophe Marc Crépon qui nous parlera de l'aspect philosophique chez Albert Camus. Merci infiniment à Tikraïmi.
Merci à vous.
Merci à toutes et à tous, et merci à Tikraïmi. Je rappelle que tous les livres d'Albert Camus sont disponibles aux éditions Gallimard et tous en livre de poche. Merci à Loïc Frapsos, qui était à la technique. Merci à Maëlan Loeck, Anne-Sophie Dazar, Élodie Royer. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Iyab Radouane qui a composé la musique. Et merci évidemment à Lilian Alaume qui, comme chaque soir, à réaliser cette émission. Après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka pour la suite de son Very Good Trip. Et comme chaque soir, on va se quitter en musique avec Agnès Obel.